16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter et le sourire en prime. Son sourire justement est l'un des plus célèbres de France. Qu'il parle d'un événement joyeux ou d'un supplice médiéval cruel, il ne s'en départit jamais. Je dirais même que le sourire est accentué quand il s'agit d'un supplice médiéval. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, votre supplice va commencer. Oui, chaque après-midi, on réunit trois personnages de l'histoire qui n'auraient jamais dû se croiser. Oui, parce qu'ils ne vivaient pas à la même époque. Mais ils avaient un point commun. Et aujourd'hui, et ta sœur...
Quoi ma sœur?
Elle balbeur, mais non. Et ta sœur, c'est le thème de notre émission, dans laquelle on réunit des sœurs au nom devenues célèbres grâce à leurs frères. Vous suivez?
J'ai à peu près suivi, pour l'instant, c'est pas trop compliqué.
À commencer par Laure Moulin, la sœur d'un certain Jean. Comme lui, elle aussi a résisté et a continué à le faire vivre une fois mort, vous verrez. Puis je vous raconte Miss Dior, Catherine Dior, la sœur du célèbre grand couturier Christian Dior, qu'il a adoré alors que la guerre les a un temps séparés. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une sœur avec qui il ne vaut mieux pas trop plaisanter.
Effectivement Stéphane, ça pourrait avoir de fâcheuses conséquences pour vous, comme par exemple votre décès. Aujourd'hui, ah oui. Direction la Corée du Nord. À la rencontre de...
C'est pas vrai.
Pourquoi ça serait pas vrai?
C'est aussi la musique chinoise.
Oui, mais c'est pareil.
Tout ça, voilà.
C'est
bonnet blanc et blanc.
C'est le budget sonore d'Europe 1. À la rencontre de la mystérieuse Kim Yo-jong, la sœur de mon amie d'enfance qu'on appelait Boule Coco et que vous appelez vous plus respectueusement Kim Jong-un, elle vient d'être nommée au sein du plus important organe de décision du régime. On fêtera ça ensemble.
Et avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour à tous. Et je commencerai par une histoire de frères. Vous savez que le 13 octobre 1131, donc c'était il y a 890 ans, un cochon surgit dans les pattes du cheval du prince Philippe. Vous connaissez ça.
Le fils de Louis VI le Gros.
Exactement. Et conséquence, et ben c'est le jeune frère qui devient roi.
Louis VII le Pieux.
Exactement. Stéphane sait tout ça par cœur. Donc tout ça à cause d'un cochon. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la crème des accidents bêtes.
Ah,
voilà
bon,
mon thème du jour.
Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que le drapeau n'était plus rouge. L'oriflamme
a
changé de couleur et est devenu blanc.
Mais pour quel rapport avec le cochon?
Parce que le sang du cochon, ça en fait, c'est un sanglier.
Mais l'oriflamme, c'est l'oriflamme. Donc c'était une bannière rouge, avec un.
Exactement. Et à partir de ce moment, c'est devenu blanc.
Ah, je ne connaissais pas ce détail passionnant.
Les infos en plus dès le sommaire.
Avec nous également David Castello-Lopez, qui remonte aux origines. D'une invention.
Oui, et aujourd'hui c'est le caplat, vous savez.
Ah, c'est génial.
Ces planchettes de bois d'une très grande simplicité, d'une très grande sobriété, qui ont vraiment eu beaucoup de
succès. Stéphane ne connaissait pas l'autre jour les Transformers, les jouets Transformers, mais là le caplat,
ça me parle. Ça,
c'est votre jeunesse.
Oui, bah oui.
Non, vous n'avez pas connu, vous n'avez pas pu connaître.
On avait
même une orange.
Non, nous, on avait des cubes. On avait des cubes, des mécanos.
On avait des mécanos. Ah oui, des petits soldats de plomb. Olivier Pouls est avec nous également, Stéphane, notre expert gastronomique. Chaque jour, l'histoire d'un plat ou d'un produit.
Et je vais vous parler aujourd'hui d'un produit dont la saison se termine tranquillement, mais il est encore temps de se dépêcher les amis, les figues, qu'est-ce que c'est bon les figues, je donnerai une recette de saison et puis je vous raconterai l'histoire assez amusante de la figue avec une petite surprise qui devrait à mon avis vous étonner.
Enfin sur le coup de 5h-10 les amis, nous jouerons à Bern to be alive, ce quiz tragicomique qui nous en apprend beaucoup sur l'histoire mais encore plus sur le sadisme du type qui pose les questions. Mais tout de suite, découvrons notre première sœur au nom célèbre de l'histoire. Son frère est entré dans l'histoire et surtout au Panthéon, Jean Moulin. Comme lui, elle a résisté et a poursuivi le combat après sa mort pour continuer à le faire vivre. Entre ici, Stéphane Bern, pour nous raconter Laure Moulin.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes le mardi 19 octobre 1943 à Montpellier. Laure Moulin est seule dans l'appartement qu'elle partage avec sa mère au 21 de la Grand Rue. Il est 12h30 lorsqu'elle entend frapper à la porte. Les coups sont secs, répétés. La sœur du résistant Jean Moulin, elle-même agent de liaison pour la résistance, s'inquiète. Est-ce la Gestapo? Une perquisition? Une arrestation? Elle ouvre. C'est un policier allemand. Je viens annoncer à Madame Blanche Moulin la mort de son fils Jean, assène-t-il. Le sol se dérobe sous les pieds de Laure Moulin. Son petit frère? Mort? Mais de quoi? L'allemand lui dit là que le décès est dû à une paralysie du cœur pendant un transfert. Laure Moulin sait bien que c'est impossible. Jean n'est pas cardiaque. Elle imagine les supplices qui ont dû être infligés à son frère adoré, elle qui le soutient dans son activité de résistant depuis la première heure. Laure Moulin est née le 3 décembre 1892 à Saint-Andiol, un village proche de Béziers, dans une famille profondément républicaine. Elle a 7 ans quand son frère Jean vient au monde et immédiatement la grande sœur le prend sous sa protection. En 1915, elle s'inscrit à la faculté des lettres de Montpellier et bientôt son frère la rejoint pour faire du droit. Étant l'aînée, je veillais discrètement sur lui, révèle-t-elle. Laure se souvient aussi des déboires de son cadet en pleine Première Guerre mondiale, comme cette fois où Jean et ses jeunes amis déambulaient dans les rues de Montpellier et avaient été pris à partie par une vingtaine de soldats ivres qui les traitaient de planqués. Quelques coups avaient fusé, mais Jean était rentré indemne. Laure décroche sa licence et devient professeur d'anglais. De son côté, Jean Moulin est nommé en février 1922 chef de cabinet du préfet de Savoie à Chambéry. La grande sœur redouble d'attention pour que l'installation du jeune homme qui a alors 22 ans se passe au mieux. Elle lui achète une valise et des vêtements adaptés aux rudesses de l'hiver montagnard et lui expédie des colis de nourriture. Jean lui fait parvenir de la laine savoyarde qu'elle transforme en pull tricoté à la main avant de lui renvoyer le paquet. En 1926, Laure Moulin se désole de voir Jean épouser Marguerite Cerruti, avec laquelle elle n'accroche pas vraiment. Pourtant, c'est elle qui conseille son frère à propos des invités de la liste de mariage. « Je compte sur ton tact pour éviter de froisser les susceptibilités », écrit-il dans une lettre. Fait rare pour l'époque, Laure Moulin reste, quant à elle, célibataire. L'élégante jeune femme, brune, a bien dû avoir quelques prétendants, mais elle affirme son indépendance. Titulaire du permis de conduire, ce qui est encore rare pour une femme à l'époque, elle est tout entière tournée vers sa carrière, ses amis, ses parents et bien sûr son frère, qui entame une brillante carrière politique. En janvier 1939, Jean Moulin est nommé préfet d'Eure-et-Loir, à Chartres. Mais la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée des nazis auxquels il s'oppose fermement met fin à son ambition. Aidé par sa sœur, il quitte clandestinement la France pour rejoindre Londres, où il s'engage dans les forces françaises combattantes et rencontre le général de Gaulle en personne. « Comment est-il ? » lui demande Laure, lorsqu'il vient secrètement lui rendre visite à Montpellier début janvier 1942. « C'est un très grand bonhomme, » lui répond Jean Moulin. Grâce à son frère, Laure découvre les arcanes de la guerre, les coulisses des services secrets de la France libre. Jean Moulin est le délégué personnel du général de Gaulle en France. Il a été chargé d'unifier la résistance. Il montre alors, empli de fierté, les documents secrets qui en attestent. Un ordre de mission sur microfilm dissimulé au fond d'une boîte d'allumettes sous le ruban de son chapeau. Reste à cacher ces documents ultra-sensibles. Montant sur une haute échelle, nous les glissâmes sous un morceau de tapisserie décollé tout près du plafond, précise Laure Moulin, qui se retrouve de fait résistante. Dans la foulée, elle reçoit une formation accélérée au codage pour décrypter les messages radio envoyés par Londres. Ce travail est titanesque et il n'est pas rare que Laure Moulin y passe ses nuits. Vers la mi-janvier, son frère l'envoie en mission. Laure doit localiser un opérateur radio parachuté au-dessus des Alpilles et dont on a perdu la trace. Elle se rend à Toulon pour rencontrer le banquier résistant qui devait héberger l'agent disparu, mais elle est plutôt mal reçue. « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? » Laure Moulin ne peut dire son nom. Elle explique qu'elle a fait plus de 300 kilomètres pour venir, mais que le jeune homme court un grand danger si elle ne peut pas le joindre. Son interlocuteur refuse de l'écouter, la questionne pour chercher à lui tirer des informations. « Est-ce que le jeune homme a été parachuté ?» Laure Moulin ment. Elle prétend ne rien savoir. Le banquier insiste. Il pourrait rendre service à cet agent en le présentant au préfet maritime qui est de ses amis. Laure Moulin comprend alors que son hôte entretient avec le régime de Vichy des rapports ambigus et que l'agent envoyé par Londres a préféré s'éloigner. Prudente, elle décide de l'imiter. Raccompagnée par l'épouse du banquier, elle tente sa chance une dernière fois et chuchote. « Vous pouvez bien me le dire, vous, où il est ?» La dame lui confie qu'il est caché au village de Bargemont. « Tu as réussi, » la félicite son frère Jean Moulin, qui ne cesse d'aller et venir sous couverture. Mais en juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile et l'on parle aussi d'un prochain débarquement en France. Tout irait pour le mieux si Jean n'était pas silencieux depuis près d'un mois. Laure Moulin apprend que Jean a été arrêté à Lyon, puis transféré à Paris. On imagine sa terreur à l'annonce de la nouvelle. Le niveau de responsabilité de son frère en fait une énorme prise pour la Gestapo. Elle sait que Jean ne parlera pas et qu'il sera torturé. Sans attendre, Laure Moulin prend un train pour la capitale. Il faut imaginer le Paris d'alors, teinté de vert de gris par les colonnes de soldats nazis. D'immenses oriflammes à croix gammées s'étendent sur les monuments. Les places et les boulevards sont hérissés de panneaux de signalisation en allemand. Laure se met en contact avec les amis résistants de Jean Moulin. Comment savoir où son frère est détenu ? Est-il encore en vie ? Jean Moulin œuvre sous couverture. Son nom de code est Max. Laure ne sait pas si son identité réelle a été découverte et elle n'ose pas aller demander des renseignements à l'ennemi. Le 19 octobre 1943, un policier allemand frappe donc à la porte de son appartement montpelliérain pour lui apprendre la terrible nouvelle. Jean Moulin est mort. On refuse de lui donner des précisions sur les conditions de cette mort, ni même le lieu où se trouve le corps. Comme il n'y a pas non plus d'avis de décès, Laure Moulin conserve le fol espoir que Jean soit toujours vivant, prisonnier quelque part, mais vivant. Dès la fin de la guerre, elle part à sa recherche. Mais la découverte d'une urne contenant les cendres de Jean Moulin confirme son décès, des suites des tortures nazies. À partir de là, Laure ne cesse de réclamer justice pour son frère. Avec Antoinette Saxe, la dernière compagne de Jean Moulin, elle enquête sans relâche pour retrouver le traître qui l'a dénoncé. Très vite, un nom émerge, celui de René Hardy, un résistant incriminé par divers documents de la Gestapo, le mentionnant comme agent double. Malgré plusieurs preuves accablantes et deux procès, René Hardy ne sera jamais condamné. Pour réparer cette injustice, Laure Moulin lutte sans relâche à faire connaître l'action de son frère. En 1964, l'entrée au Panthéon de Jean Moulin concrétise tous ses efforts. Jusqu'à sa mort, survenue le 31 décembre 1974, elle a sillonné la France pour multiplier les interviews et inaugurer stèles, rues ou mémoriaux à la mémoire de Jean Moulin. Laure Moulin n'a jamais cherché la gloire, mais grâce à elle, le nom de son frère est resté dans l'histoire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Laure Moulin, nous avons le plaisir d'accueillir l'historien qui lui consacre une riche biographie, Thomas Rabineau. Bonjour Thomas.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Thomas Rabineau. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la résistance et vous avez en effet publié Laure Moulin, résistante et sœur de héros aux éditions Perrin. Résistante, elle voulait l'être aussi ou c'est surtout parce que son frère avait besoin d'elle qu'elle a été enrôlée ou qu'elle s'est enrôlée?
C'est, on va dire qu'ils étaient en pleine communion d'esprit et ce depuis toujours. Ils ont eu un engagement commun dès les années 30 au profit des républicains espagnols. Jean Moulin, lui, était chef de cabinet du ministre de l'air Pierre Cotte. Il faisait envoyer des armes de manière clandestine et elle était sur le terrain et elle menait une action humanitaire pour accueillir les réfugiés. Et cet engagement, il va avoir une continuité toute naturelle au moment de l'effondrement de l'armée française. Tous deux n'acceptent pas la défaite, ils n'acceptent pas non plus le régime de Vichy qu'ils exècrent en ardent républicain. Donc c'est vraiment dans la plus pure logique qu'ils vont se mettre à travailler ensemble. Et donc quand Jean revient en janvier 1942 avec la mission d'unifier la résistance, il y a une femme de confiance, c'est sa sœur. Et donc, la question ne s'est même pas posée, en fait.
Ils ont 7 ans d'écart. Jean Moulin, c'est son petit frère.
Oui.
Alors, et pourtant, c'est lui, dans la résistance, en tout cas, qui a l'ascendant sur ça. Elle s'est laissée, ça ne la gênait pas du tout, que ce soit lui qui prenne l'ascendant.
Non, il y a, de la même façon qu'elle admirait considérablement son frère pour ses talents de dessinateur et puis pour la carrière brillante qu'il a menée dans l'administration préfectorale en devenant plus jeune préfet de France, elle admirait aussi son petit frère qui était parti en Angleterre, oui, et qui avait rencontré De Gaulle. Mais on peut dire qu'elle a pu jouer aussi un rôle, même à ce niveau-là, puisque dès juin 1940, elle lui envoie une lettre à mots couverts. Il fallait coder leurs échanges qui pouvaient être lus. Et elle lui dit « Jean, tu devrais te rendre sur cette plage bretonne pour te reposer ». Et en fait, cette plage bretonne, c'était une plage de Grande-Bretagne où ils étaient allés l'année d'avant. Et en fait, elle va être la première à lui dire qu'il faut continuer le combat en Angleterre. Et lui a dans l'idée d'abord d'aller aux États-Unis. Et puis finalement, il va se rendre compte au fil des mois que c'est sa sœur qui avait raison.
Mmh. Il y avait quelque chose de furieusement indépendant dans le personnage de Laure Moulin. Elle ne respectait pas les normes sociales. J'ai dit qu'elle était restée célibataire. J'ai raconté même que son frère avait parfois un peu peur de son manque de tact. Elle était un peu une tête brûlée.
Alors, elle avait aussi une grande franchise. Mmh. Elle était foncièrement honnête et quand elle avait quelque chose à dire, elle le disait. Et étant donné qu'elle avait aussi vécu à rebours des normes sociales de l'époque qui étaient vraiment écrasantes pour une femme qui voulait être indépendante, vivre, gagner sa vie par elle-même, c'était pas simple. Alors vis-à-vis de son frère, il lui est arrivé de lui dire « Jean, il faut que tu te remaries », elle a tenté d'organiser des rencontres, etc. Mais entre eux, il y avait vraiment cet amour fraternel qui dépassait tout et qui les a menés finalement très loin.
Vous dites dans votre livre que Laure Moulin n'avait aucune idée de la lutte clandestine. Est-ce que ça veut dire que son frère restait très secret, même avec elle, sur ce qu'il faisait vraiment?
Alors c'est peut-être un petit peu à nuancer, c'est-à-dire que étant donné qu'elle codait et décodait des messages, transportait des courriers, passait de l'argent à des groupements résistants, elle avait un point d'observation quand même assez particulier, qui lui donnait une idée des difficultés de l'action que menait son frère. Elle voyait aussi tous les pourparlers dont faisait l'objet ce processus d'unification. Alors, elle ne connaissait pas tous les détails, elle ne connaissait pas tous les pseudonymes des résistants, mais elle en savait quand même beaucoup. Et c'est son humilité naturelle qui lui a fait dire par la suite que finalement, elle ne savait pas grand-chose. Aussi, évidemment, parce qu'elle ne voulait pas se mettre elle-même dans la lumière au détriment de son frère.
Dans votre biographie, Thomas, votre biographie de Laure Moulin, vous écrivez qu'elle ne mit jamais publiquement en évidence son rôle auprès de Jean Moulin, qu'elle resta volontairement dans l'ombre et qu'elle a consacré tout le reste de sa vie à sa mémoire, finalement. Pourquoi un tel dévouement ?
C'était sans doute pour elle une question de survie. Étant donné qu'elle n'avait pu obtenir la justice dans les prétoires, que les principaux suspects de la mort de son frère s'en étaient très bien tirés, aussi bien René Hardy que Klaus Barbie, qui était sous protection américaine, et ça se savait à l'époque, pour elle, il fallait obtenir la justice devant l'histoire. C'était indispensable. Aussi pour montrer à la France et au monde qui avait été son frère. Elle a écrit « L'entrée au Panthéon consacrera sa gloire ». Et c'était vraiment le but qu'elle poursuivait.
Mais c'est vrai que c'est fou quand on y pense, parce que moi personnellement je ne connaissais même pas l'existence de Laure Moulin. Si aujourd'hui quand on demande à un élève en cours, citez-moi un résistant, on va dire Jean Moulin. Et ça en fait on le doit, il y a eu peut-être d'autres résistants, peut-être du même niveau que Jean Moulin, mais si on connaît Jean Moulin avant tout, c'est grâce à sa sœur finalement, ouais. C'est grâce à Laure.
Ouais. C'est un paradoxe qui est tout à fait étonnant, puisqu'elle porte le nom du plus célèbre des résistants, mais son nom à elle et son prénom est complètement méconnu.
Et quelle relation elle entretenait avec Daniel Cordier, qui était l'assistant de Jean Moulin et qui est décédé cette année?
Alors, Cordier, d'ailleurs, était quelque part le successeur de Laure Moulin à Lyon et à Paris, puisque Laure agissait auprès de Jean à Montpellier et à Saint-Andiol, dans leur village familial. Pour Laure, Cordier, c'était le petit croix de feu, je le cite, parce qu'il était, c'est comme ça que Jean lui avait parlé de son nouveau secrétaire, et il venait de l'extrême droite, alors c'était pas un croix de feu, mais bon.
Il était plutôt monarchiste, en fait.
Voilà. Et en fait, Cordier lui-même m'a dit, Laure Moulin, mais je l'ai trouvée assez froide, assez distante. Et pour cause, parce que étant donné son ancrage politique, elle avait eu tendance à le considérer comme peut-être un peu suspect.
Ah oui.
Et puis, ça n'a pas duré longtemps, et par la suite, quand Daniel Cordier a créé le Club Jean Moulin, sorte de think tank politique dans les années 60, elle l'a soutenu avec beaucoup d'entrain.
Pourquoi elle n'est pas entrée plus dans la résistance? Est-ce qu'elle recevait des ordres de d'autres commandants de la résistance? Pourquoi elle n'est pas allée non plus en Angleterre?
Alors, si elle n'est pas allée en Angleterre, déjà c'est pour une raison pratique, c'est qu'il fallait s'occuper de leur vieille mère Blanche Moulin, qui avait 73 ans. Ensuite, elle avait un certain sens du devoir qui l'a fait rester auprès de ses élèves, à qui elle tenait beaucoup. Alors, elle était professeure sous Vichy, mais pas de Vichy. Évidemment, elle n'adhérait pas du tout à l'idéologie. Et elle était un peu sous couverture. Hein. C'était l'activité qui lui permettait de mener ses actions dans la résistance. Et puis, il y a un autre fait que j'ai découvert récemment, suite à la parution de mon livre. J'ai reçu une lettre d'une dame qui a été son ancienne élève et qui raconte que pendant l'année scolaire 1943, il y a une jeune fille qui est venue dans leur classe, dans la classe de Laure Moulin, dont le nom n'était pas donné et dont le nom n'était pas prononcé non plus pendant l'appel et dont le bureau était placé à l'abri des regards, à côté de celui de la professeure. Et en fait, il s'est avéré par la suite que c'était une jeune fille juive qui était cachée et donc Laure Moulin avait participé à cette filière qui a conduit cette jeune fille qui s'appelait Elisabeth à Nice. Alors, on n'a pas encore retrouvé sa trace, mais ce qu'on voit, c'est que comme beaucoup de résistants qui étaient engagés dans des activités de renseignement ou d'évasion, ou même d'action directe, elle avait cette volonté aussi de faire le maximum. Et ça, elle n'en a pas parlé, comme beaucoup, sans doute parce qu'elle estimait que c'était son devoir, mais aussi parce qu'il y avait une part de risque qui aurait pu peser sur les activités qu'elle menait avec son frère.
Est-ce qu'à part le coup du parachutiste, là, il y a eu d'autres missions sur le terrain concrètes pour elle ?
Oui, en fait, il fallait beaucoup improviser, puisque la résistance, c'était 24 heures sur 24. Alors, il lui est arrivé de récupérer par un certain hasard une mallette radio, un poste-émetteur britannique, qu'une de ses amies professeurs d'anglais avait récupéré, puisque les professeurs d'anglais étaient susceptibles d'être des résistants. Oui. Hein, ils étaient sympathisants de l'ennemi, et certains ont fait ce raccourci pour essayer de leur confier des responsabilités. Et c'est ce qui est arrivé à cette proche de Laure Moulin, qui lui a dit « Mais il y a un agent anglais qui était poursuivi, il m'a donné ça, qu'est-ce que j'en fais ?» Et elle, évidemment, elle sait quoi en faire. Sauf que transporter une valise radio sur son vélo pendant l'occupation, ça pouvait être extrêmement risqué. Donc ça, elle l'a fait. Mais elle a aussi transporté des documents confidentiels dans le cadre de son vélo. Elle en a caché d'autres entre Montpellier et Saint-Andiol. Donc elle a fait beaucoup d'actions de terrain, mais dont on ne parle pas nécessairement sur ses états de service.
Lorsque Jean Moulin a été arrêté... Laure Moulin n'a pas été inquiétée. On est simplement venu lui annoncer la mort de son frère, mais à aucun moment on ne l'a soupçonné ou suspecté d'avoir participé aux actions de résistance de son frère.
De connaître des choses.
Ouais, elle a bien joué son rôle de sœur éplorée. Et les Allemands ne pouvaient pas imaginer que cette vieille fille, entre guillemets, pouvait être mêlée au plus haut niveau des activités de la résistance française. D'autant plus qu'elle-même s'est jetée dans la gueule du loup. En octobre 1943, elle se rend avenue Foch, qu'on appelait à l'époque l'avenue de la Gestapo, puisque la Gestapo et les services de l'occupant avaient réquisitionné la plupart des bâtiments. Elle se rend là-bas pour demander des comptes, pour dire « mais qu'est-ce qui est arrivé à mon frère ?» Et elle rentre presque au hasard au 84, et il n'y a personne dans l'immeuble, on la laisse passer, mais il n'y a personne. Et là, elle monte au hasard les escaliers, et elle se fait intercepter, on lui dit « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Alors elle explique, et on lui indique le bon bâtiment. Et bon, il se trouve que son frère avait été torturé deux étages plus haut. Ça, c'est vraiment assez incroyable comme coïncidence. Mais le fait qu'elle aille au-devant du danger a sans doute poussé les Allemands à considérer qu'elle ne représentait pas une source de renseignement potentiel.
Merci beaucoup Thomas Rabineau d'avoir fait revivre avec nous cette héroïne discrète de la résistance. Je rappelle le titre de votre livre, Laure Moulin, résistante et sœur de héros, publié aux éditions Perrin.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui ne tiennent pas toujours debout. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, celui qui ne tient pas debout, c'est surtout le jeune prince Philippe dont vous nous racontez l'histoire, qui a bêtement changé le cours de sa vie. Et de l'histoire aussi.
Mais oui, j'appelle ça des accidents bêtes, c'est-à-dire un accident qui incrimine un personnage célèbre et un animal et qui change le cours de l'histoire. Et le plus ancien et le plus connu, c'est celui, vous en avez peut-être entendu parler, Mathieu, vous allez me dire, celui du dramaturge grec Eschyle.
Ah oui,
la tortue d'Eschyle. En 456 avant Jésus-Christ, un rapace qui avait trouvé son déjeuner, en l'occurrence une tortue, le laisse tomber croyant sans doute avoir affaire à une pierre pour casser la carapace et pouvoir accéder à la bidoche. Et en fait, il confond le crâne chauve d'Eschyle avec une pierre. Et voilà comment est mort Eschyle. Mais oui...
Il y a le père d'Henri IV aussi qui est mort en pissant.
Et oui, bien sûr.
Parce que
c'est-à-dire qu'il a été pris d'une envie pressante et il s'est fait tuer à ce moment-là.
Ah d'accord, il était
démuni. Enfin, son frère aîné a été aussi manipulé façon ballon de rugby. Il est passé par la fenêtre. Il y en a des morts idiotes comme ça. Alors là, celle sur laquelle j'avais démarré, celle de Louis VII. Hein. Louis VII voulait devenir moine et mauvaise pioche, puisque son frère étant renversé par un cochon, il doit donc prendre sa place. Il épouse Aliénor d'Aquitaine. Et vous savez qu'en mars 1152, Aliénor en a ras-le-bol de vivre avec ce triste sire. Elle fait annuler son mariage. Elle repart avec sa dot, l'immense duché d'Aquitaine. Elle épouse Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre. Donc, si vous voulez, il y a une conséquence directe entre la survenue, le surgissement de ce cochon et la guerre de Cent Ans. Voilà, petite cause et grands effets. Et à la suite de cet accident, les cochons n'eurent plus le droit de girovaguer dans Paris. Paris, sauf ceux des moines du quartier de Saint-Antoine qui boulottaient les ordures du coin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, à la foire du trône, on mange des petits cochons en pain d'épices. Vous saviez ça?
Ah non, mais je ne savais pas
voilà,
du tout.
C'est à cause de cette histoire de cochons du faubourg Saint-Antoine. Alors, autre accident bête, celui entre Jean-Jacques Rousseau et l'énorme chien danois du châtelain de Ménilmontant qui, le 24 octobre 1776, renversa le philosophe alors que celui-ci revenait d'herboriser sur la colline de Ménilmontant. Rousseau le raconte dans Les rêveries d'un promeneur solitaire, tout Paris le donna pour mort alors qu'il se rétablissait tout doucement chez lui. Il y a aussi le fameux accident entre Pierre Curie et un chariot rue de Nevers, un charroi tiré par des percherons, et Pierre Curie meurt à 47 ans écrasé par ce lourd charroi. C'est un lieu qui est maudit là, ce coin-là vers le Pont-Neuf, parce que le char qui transportait la statue d'Henri IV sous la Restauration avait déjà écrasé un libraire au même endroit. Alors, il y a la fameuse dans le genre accident bête, l'histoire que connaissait aussi par cœur Stéphane du roi de Grèce, Alexandre de Grèce, qui se baladait là.
Il s'est fait mordre par un singe.
Et oui, c'est ça.
Alexandre
voilà, c'est ça.
De Grèce.
Vous vous souvenez, il y avait une question du quiz.
Quand il s'est marié avec Aspasia Manos, chaque fois que vous dites à un Grec le nom d'Aspasia Manos, ils font le ftouftou, vous savez, pour chasser le mauvais œil, parce qu'il pense que c'est sa femme qui avait jeté le mauvais œil. Donc, il croise les doigts comme ça, il faut ftouftou, et puis ça chasse le mauvais œil, théorie.
Voilà, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le malheureux a quand même, il a été mordu par un singe, et qui lui a, dans la région de l'estomac, ça lui a causé une septicémie, et il est mort 3 semaines plus tard, à l'âge de 27 ans. Alors, deux, trois morts, accidents bêtes, vraiment, vraiment très, très bêtes. En 1960, Alan Stassé, un pilote britannique, meurt lors du Grand Prix de Belgique après avoir été heurté par un oiseau en plein visage. Ça a dû faire très, très mal. En fait, ça lui fait tellement mal qu'il est mort. Ah, il y a une mort, un accident bête, une mort très bête qu'apprécierait Olivier. C'est 1975. Bando Mitsuko 8, célèbre acteur japonais de Kabuki, qui meurt des suites d'une intoxication massive à la tétrodotoxine parce qu'il avait goûté au foie de fougou et consommé ses co-invités pour les impressionner. Et alors, il y en a une vraiment que j'aime particulièrement, et là, ce qui est très triste aussi, parce que c'est une histoire d'amour, en fait.
Ça n'a pas l'air de vous tirer des larmes.
Le 1er novembre, vous allez voir, ça ne vous tire pas des larmes. Le 1er novembre 1999, Jean Duc, directeur du zoo de Pessac, en Gironde, est tué par Comir, un hippopotame qu'il connaissait pourtant très bien et qu'il avait lui-même dressé. Les employés du zoo considèrent que l'animal était jaloux du nouveau tracteur du directeur du zoo. Alors, ce genre d'histoire triste pour enfants riches, vous pouvez les retrouver dans La Tortue d'Échille et Les Morts à la con de l'histoire. Il y en a toute une série, plus, hélas, plus tragicomique les unes que les autres.
Je reviens sur mon histoire de drapeau.
Avec une précision.
Parce que c'est Michel Pastoureau qui a fait un livre sur cette mort idiote de l'histoire, celle de Philippe de France. Et le fait qu'il ait été tué par un cochon impur, par un animal domestique considéré comme sale et impur, a poussé son père et les dynastes suivants à choisir comme emblème dynastique la Sainte Vierge et ses attributs. C'est-à-dire on a banni l'emblème de Saint-Denis, qui était le drapeau rouge, au profit de la fleur de lys et le bleu. Pardon, ce n'était pas le blanc. C'est le bleu d'abord qui a été...
Et c'est la mort du dauphin
c'est
qui a...
C'est la mort, exactement. Vous voyez, donc ça a eu une répercussion importante dans l'histoire de France.
Nous avons été très complets sur les morts idiotes de l'histoire. Nous n'avons pas parlé des cas d'épectase qui sont pourtant intéressants.
Aujourd'hui, j'ai raconté le prince de Condé pendu à son espagnolette. Bien sûr, on en a parlé.
La baronne de l'espagnolette.
Que de souvenirs. Oui. On se retrouve là.
C'était au 19e siècle.
Mais c'est des souvenirs quand même, vu qu'on en a déjà parlé. On se retrouve pour le quiz dans quelques instants.
Europe 1, historiquement vôtre.
C'est le moment de tous les dangers, surtout pour Stéphane, qui à une lettre près manque parfois d'annoncer une séquence d'une toute autre nature.
C'est une dure lutte.
Une dure lutte, en effet, à ne pas confondre avec quelque chose de beaucoup plus agréable. Jouons à Burn to be Alive. Stéphane, la première question de notre quiz est toujours pour vous. Dans l'État de New York, aux États-Unis, le 6 août 1890, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on décide d'appliquer la peine de mort par chaise électrique. Rien n'est laissé au hasard, car la veille, on a testé la machine sur un cheval. Vrai ou faux ?
Je crois que ça n'est pas sur un cheval qu'on l'a testé. Je me demande si c'est pas sur un mouton.
Je pense que ça serait logique qu'on l'eût testé sur un autre être vivant.
Il eût été logique qu'on la testasse.
Voilà. Mais forcément, un animal. Je ne vois pas un cheval s'asseoir sur une chaise électrique. C'est-à-dire, ça me paraît très difficile, si vous voulez. Je vois plus un mouton, une chèvre.
Ou un chien.
Vous voyez un mouton s'asseoir sur la chaise
électrique. Non, mais pas s'asseoir.
On lui a mis les. Vous voyez, vous, un cheval sur
les
une
électrodes.
Chaise électrique.
Non, je ne vois rien, je pose les questions.
Je pense qu'effectivement, on a testé la chaise électrique, mais on ne l'a pas testée sur un cheval. C'est faux.
Vous avez perdu.
C'était vrai, Stéphane. Et pour
incroyable.
Le cheval, alors évidemment, on n'a pas fait asseoir le cheval. Si vous voulez, on a mis les électrodes correspondant au voltage. Je pense
vous
que c'est
sûr
ça
de ça, parce que moi, je
suis sûr que tu avais.
Bah, écoutez, j'ai l'impression d'avoir lu.
C'est sur sa feuille.
D'avoir lu, oui, mais bon.
Je le sais, j'ai toujours su, c'est écrit là. Pour le cheval, ça a fonctionné. Il est mort très rapidement, mais pas sur William Kemmler, le condamné. Après la première décharge de 1000 volts, il respire encore, hélas, le pauvre bougre. Le générateur a eu besoin de temps pour se recharger. On est passé à 2000 volts. Un journaliste du New York Herald déclara que les hommes, pourtant habitués à toutes sortes de souffrances, étaient pris de maux de ventre à la vue de ce spectacle abominable. Voilà, toujours important de commencer un quiz dans la bonne humeur. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Histoire de l'espace. Le cosmonaute est russe. Le spationaute est européen, le taïkonaute est chinois. Mais il existe aussi les viomanautes. Vrai ou faux ?
Les viomanautes ? Alors écoutez, si cela existe, je n'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que ce serait ? C'est le nom, ça veut dire espace en sanskrit, en pachtoune, en farsi, dans une langue étrange. Je n'ai jamais entendu ce mot. Il existe aussi les viomanautes, mais ça ne doit pas du tout désigner quelqu'un qui va dans l'espace. Donc la question est, est-ce que ça existe,
oui,
un viomanaute?
Oui, hein, oui, c'est la question, exactement.
Bon, spontanément, je dirais non, non.
Vous avez perdu.
Alors ça, c'est un cas rare dans l'histoire du quiz. Vous avez non seulement... Votre première réaction a été de donner la bonne réponse, qui plus est avec la bonne explication. Puis ensuite, vous vous êtes éloigné de cette idée pour nous répondre non. C'est les Indiens ! Ils sont rares, mais ils existent, les viomanautes. Vioman, c'est le ciel en sanskrit.
Ah,
vous
voilà.
Étiez si près du but, c'est rageant.
Rage et manqué de confiance.
Question numéro 3
et
pour
confiance.
Vous, Stéphane.
Oui, ah oui, oui, oui.
Une facile pour vous, Stéphane.
Oui,
une facile.
Non, non,
une facile.
Ah, là, 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 là.
Ah non, elle est facile, facile. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise italienne Piaggio n'a plus le droit de fabriquer d'avions, qui était son activité principale pendant la guerre. Enrico Piaggio va donc lancer la Vespa. C'est lui qui choisit ce nom pour ce scooter breveté en 1946. Vespa, en langage familier, veut dire séducteur. Vrai ou faux ?
Ah, pas du tout. Je crois, Vespa veut dire...
Que veut dire Vespa ?
Je crois que c'est une...
Une colombe, peut-être ?
Non, non, pas une colombe.
La colombe.
C'est pas une libellule ou...
Une libellule, là.
Non, non, c'est...
Ça fait plus que... Ça ressemble plus à
une
noix.
Non, oui, une... C'est un animal volant, donc c'est pas, ça ne veut pas dire que
c'est un dorifore.
Un animal volant, un molto bene.
Un cafard, une...
C'est pas un cafard, non.
La question ne va pas jusque-là, Stéphane. Vespa, en langage familier, veut dire séducteur, vrai ou faux ?
Non, c'est non.
Vous avez gagné !
Et c'est une bonne réponse. Maintenant, nous allons tâcher de réfléchir ensemble pour comprendre ce que veut dire Vespa en italien. Vous avez dit c'est un animal volant. C'est un premier pas vers la vérité. Que fait la Vespa, à part avancer ?
Elle pétarade.
Elle pétarade, oui, on peut le dire. Et donc, quel animal volant ? Vous avez un point bonus si vous répondez bien.
Une oie qui...
Non, c'est un...
Quel est l'animal volant qui pétarade ?
C'est un problème de Carter, là. Il faut faire, il faut lubrifier, là.
C'est un insecte, une abeille, une...
Une
guêpe.
Une guêpe.
Une guêpe, oui, bravo, un point supplémentaire pour Stéphane.
Et je l'ai dit avant lui, en plus.
Oui, mais enfin, vous
c'est pas votre question. Alors, très bien, Stéphane.
Merci.
Très bien, bravo.
Oh,
question numéro 4 pour vous,
Clémentine.
Parce que la tortue a le pied sûr, est-ce une raison pour couper les ailes de l'aigle ? Voilà une fulgurante citation d'Edgar Poe dont nous parlons l'autre jour. Est-ce que ce dramaturge et poète, figure du romantisme américain, a vécu suffisamment longtemps pour manger des chips ?
Écoutez, vu que les patates soufflées, qui sont un peu les ancêtres des chips, ont été inventées au moment là, du premier voyage accident de chemin de fer, hein, c'est ça ? Parce qu'elles ont été replongées dans un bain d'huile en attendant les convives qui n'arrivaient pas et pour cause. Et ça, c'est dans la seconde partie du 19e. Donc, je suppose que le temps que les patates soufflées arrivent aux États-Unis, quand même, mettons quelques années. Et je pense que, oui, ça a dû être très, très juste, mais je pense qu'il a pu manger des chips.
Vous répondez ?
Bah, je réponds oui.
Alors, ça ne m'arrange pas pour mes comptes. Je vous donne un indice, ce n'est pas la bonne réponse.
Ah bon, zut alors.
Un petit indice comme ça, pour vous, chez
alors,
vous.
Alors, finalement, le malheureux a pas pu, c'est très triste.
Vous avez
Gagné.
Et c'est une bonne réponse
ah,
de Clémentine
bizarre,
qui égalise,
hein,
car c'était une question à deux points, j'avais oublié de le préciser. Question. Alors, non, il est mort en 1849. En revanche, il nous faut revenir sur un point parce que vous avez donné une version de l'invention des chips qui n'est pas celle que j'ai sur ma feuille.
Ah non, moi, ce n'est pas les chips, ce sont des patates soufflées.
Ah,
c'est l'ancêtre de la chips, je pense.
La chips est née en 1853 grâce au chef cuisinier afro-américain George Crumb et Edgar Poe est mort en 1849. Voilà, ça s'est joué à peu de choses près. Vous avez su déjouer le piège admirablement.
On est bien peu de choses. Hein.
Question numéro 5, elle va vous départager. Elle va vous départager cette question.
C'est rue de la truanderie ici.
Ah, de la grande quand c'est à votre c'est détriment, ça fait
j'imagine,
ça fait pas plaisir,
les amis, que vous vous souvenez tous ici de Condoleezza Rice, secrétaire d'État des États-Unis sous George Bush. Elle a été la seconde femme à occuper ce poste après Madeleine Albright. Mais pourquoi Condoleezza ? Trois propositions. Ça veut dire avec nos condoléances, ça veut dire avec douceur ou ça veut dire avec de la mozzarella.
Deux.
Un cas rarissime dans l'histoire du quiz. Rarissime dans l'histoire des jeux en général. Que nous avons une égalité parfaite, même si ça ne se dit pas là. Elle est parfaite puisque on ne peut pas vous départager. La photo finish ne vous départage pas. Vous partagez la victoire dans ce quiz.
Mais très bien.
Bravo.
Bon,
bravo.
Mais
ça veut dire
plaisir.
Avec douceur. Sa maman aimait l'opéra et c'est un terme italien utilisé dans la notation musicale pour dire qu'il faut jouer le morceau avec douceur. Con dolcezza, ça a donné Condoleezza Rice. Et voilà une belle double victoire dans le quiz.
Et une sortie en douceur. C'est magnifique.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, l'émission d'histoire qui vous la raconte, l'histoire sans jamais se la raconter. Deux heures où l'on apprend en s'amusant avec ce grand enfant qui est resté Mathieu Noël.
Oui, j'aurais pu être votre petit frère, Stéphane. Des frères, vous en avez, mais des sœurs. Est-ce qu'il y a quelque part une berne ?
Écoutez, pas que je sache.
Mais ça viendra peut-être un jour au moment de l'héritage.
Oui.
Eh bien, derrière chaque grand homme, il n'y a pas toujours une femme, comme le dit le dicton machiste, il y a parfois une sœur.
Oui, Mathieu, aujourd'hui, nous rendons hommage aux sœurs de... En réunissant des sœurs au nom célèbre, après Laure Moulin, la sœur de Jean Moulin, je vous raconte la destinée de Catherine Dior dans l'ombre de son frère, le grand couturier Christian Dior, que la guerre a un temps séparé. Quant à vous, Mathieu, vous avez déjà un truc rouge sur le front, c'est mauvais signe, hein, et j'ai l'impression que c'est pas du rouge à lèvres Dior.
Oui, c'est le rouge d'un sniper nord-coréen qui me tient à l'œil, c'est sous son contrôle que je vous brosserai un portrait, disons à 12% vrai, de Kim Jong-yo, la puissante sœur de Kim Jong-un, le dictateur, le leader démocrate et droit de l'homiste de la Corée du Nord. Loin de ces tracas diplomatiques, nous retrouvons nos fidèles chroniqueurs beaucoup plus insouciants. Prenez par exemple David Castello-Lopez, Stéphane.
Et il a l'air content parce qu'il remue la queue.
Il est là, il est tout content.
David Castello-Lopez qui remonte aux origines du capla.
Oui, du capla. Exactement, c'est un jeu de construction d'un goût exquis fait de petites planchettes de bois comme ça. Et c'est une histoire assez marrante, donc je vais rencontrer les origines.
Olivier Poul, c'est avec nous, Stéphane.
Oui, il a la figue, lui. Il aime les figues et il va nous parler de ce fruit magique.
Oui, je vais vous en parler, je vais vous raconter d'où elle vient. Je vais vous donner une recette, évidemment, de saison, puisque la figue termine tranquillement sa saison.
Ce qui aurait été intelligent, Olivier, c'est de nous donner la recette au moment du début de la saison de la figue. Parce que là, si c'est la fin, ça nous laisse...
Fromage de chèvre, tout ce que vous voulez.
Oui, une feta grecque avec passé au four avec un.
Vous l'ouvrez tout simplement, exactement. Même un petit morceau de feta dedans. Pour rajouter un petit peu de miel.
Oh, la belle idée.
Ça vous fait un dessert, ça fait fromage et dessert en même temps.
Voilà. Mais oui, c'est formidable. Enfin, c'est un jeu qui se joue à 3 et à la fin, c'est un Belge qui gagne, pas comme en foot. Vers 6h-10, nous assisterons à un nouveau numéro de la lutte finale. Le quiz où le facteur chance est aussi important qu'au Uno. Mais tout de suite, il aimait les tissus et les parfums. Elle, les roses et le jasmin du jardin.
Ah, j'adore.
Forcément, Stéphane, ce sont des Dior. Elle a vécu avec son grand frère couturier. Elle a connu la guerre et ses horreurs. Stéphane Bern nous raconte Catherine Dior, une sœur au nom célèbre.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en 1947, en même temps que son premier grand défilé de mode, Christian Dior est le premier couturier à avoir l'idée, de génie, de lancer un parfum en même temps qu'une collection de vêtements. Mais quel nom lui donner ? Alors que Dior se creuse la tête, Catherine, sa petite sœur, entre dans la pièce. L'assistante du créateur lance alors « Tiens, voilà Miss Dior ». « Miss Dior ? Miss Dior ? Mais voilà mon parfum !» s'exclame Christian Dior. Et c'est ainsi que, sans le vouloir, la discrète Catherine Dior, sœur du grand couturier, est passé à la postérité. Christian est né en 1905, Catherine Dior, elle, en 1917. Les deux enfants grandissent dans une famille d'industriels prospères, entourée de domestiques. Mais tout bascule au début des années 30. Madeleine, leur mère, meurt. Et Maurice Dior, leur père, se retrouve ruiné en quelques jours, racontera Christian Dior, après avoir lancé une société immobilière que le krach boursier américain, en passant l'Atlantique, vient stopper net. Catherine, elle, est privée de l'éducation et des études qu'elle aurait dû suivre. 4 ans plus tard, elle a 18 ans lorsque son grand frère lui propose de venir habiter avec lui, à Paris. Malgré leurs 12 ans d'écart, frères et sœurs s'entendent à merveille. Ils partagent la même passion pour les fleurs et les jardins hérités de leur mère, mais aussi pour la musique et l'art. Catherine est l'une des rares personnes à qui Christian Dior ose confier son homosexualité. La jeune femme encourage le talent de styliste de son frère. Peut-être même joue-t-elle des mannequins pour ses premières créations. C'est en tout cas ce que certaines photographies laissent penser. Sur l'une d'elles, ses cheveux bruns relevés en chignon, elle porte une très chic robe noire à manches longues et un collier fantaisie. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, frères et sœurs doivent se séparer un temps. Catherine Dior s'installe dans la maisonnette de leur père sans confort ni électricité, les Naïssès près de Cannes. Elle y fait pousser des légumes, seul moyen de subsistance, et peut compter sur l'aide financière de son frère et probablement des deux aînés durant toutes ces années. En novembre 1941, alors qu'elle vient acheter un poste de radio, Catherine tombe sous le charme d'Hervé Papillot des Charbonneries. Le coup de foudre est immédiat. Le vendeur devient quelques mois après un héros de la résistance. Catherine Dior s'engage aussi. Sa tâche consiste à collecter et à transmettre des informations sur les mouvements de troupes et de vaisseaux allemands, ce qui nécessite de longs trajets à bicyclette. Catherine ne se contente pas de livrer les rapports. Avant une descente de la Gestapo, elle dissimule le matériel compromettant, puis le transmet à un autre membre du réseau. Cannes devenant bientôt trop dangereux pour la résistante, elle fuit et rejoint Paris pour retrouver son frère, qui ignore tout de ses activités clandestines. Hélas, le 6 juillet 1944, à 16h30, Catherine Dior est arrêtée place du Trocadéro par un groupe de 4 hommes armés. Ils s'emparent de son vélo, de son sac à main, pour la conduire dans les bureaux de la Gestapo, rue de la Pompe. Quelques mois plus tard, elle décrira les terribles événements au tribunal chargé d'une enquête sur les crimes de guerre, comme le relate pour la première fois la biographe britannique Justine Picardy. À mon arrivée dans l'immeuble, je fus immédiatement soumise à un interrogatoire sur mon action dans la résistance et aussi sur l'identité des chefs sous les ordres desquels je travaillais. Cet interrogatoire fut accompagné de brutalité, coups de poing, coups de pied, griffes, etc. L'interrogatoire ne donnant pas satisfaction, je fus amenée dans la salle de bain. On me déshabilla, on m'attacha les mains, on me plongea dans l'eau et je restai 3 quarts d'heure environ. Pendant plusieurs jours, Catherine Dior est torturée. Mais elle ne dénonce aucun de ses compagnons résistants. Le 15 août 1944, elle est déportée vers le camp de concentration de Ravensbrück en Allemagne. Le trajet dure une semaine. Il faut l'imaginer arrivant au camp, épuisée, affamée, terrifiée. Elle est accueillie par une meute de chiens aux crocs menaçants. Des soldats en uniforme SS armés de bâtons et de fouets hurlent des insultes. Elle y passe quelques terribles jours, avant d'être déportée de camp en camp, contrainte au travail forcé, notamment pour le compte de la firme pro-nazie de l'époque BMW, qui a transféré sa fabrication de pièces pour les moteurs d'avion dans d'anciennes mines de potasse, à l'abri des bombardements des Alliés, ou contrainte de transporter des pierres dans des conditions de travail effroyables. En France, Christian Dior est rongé par l'angoisse de ne pas savoir où se trouve sa petite sœur, ni si elle reviendra un jour. Il s'épuise en vain à retrouver sa trace, mais n'abandonne pas. Une voyante lui a affirmé que Catherine allait revenir. Christian Dior veut la croire. « Mon petit papa, écrit-il à leur père, il faut être courageux et patient. Combien de temps nous faudra-t-il encore pour revoir notre chérie ?» Finalement, Catherine Dior rentre à Paris après 9 mois de déportation. Christian serait venu l'attendre à la gare. La maigreur de sa sœur est telle qu'il lui faut un moment pour la reconnaître. Il la ramène chez lui, rue Royale, où l'attend un dîner préparé avec amour. Mais Catherine est trop malade pour en profiter. Dans les archives de la maison Dior, on peut regarder avec émotion une photographie de Catherine prise après son retour en mai 1945. Elle porte les médailles qu'on lui a décernées en reconnaissance de son courage, mais son visage est d'une tristesse indescriptible. Au grand soulagement de sa famille, Catherine Dior reprend des forces pendant l'été. À l'automne, elle est suffisamment rétablie pour entreprendre un voyage à Paris avec Hervé, son amant qu'elle a retrouvé. Il lui faut trouver un emploi. Catherine obtient l'autorisation de vendre des fleurs en gros et le couple se met à commercialiser le fruit de leur production qu'ils ont planté dans le jardin de la maison des Naïssès. Alors que son frère est en passe de devenir l'un des couturiers parisiens les plus en vue, Catherine fut la lumière des projecteurs. Pourtant, elle est le seul membre de la famille Dior présent pour assister au succès fulgurant de Christian le jour de son premier défilé. Maurice Dior étant décédé seulement quelques semaines auparavant. À chaque collection, son frère lui offre des robes. Si son célèbre parfum Miss Dior est un hommage à sa sœur, une robe aussi porte son nom. Mais on imagine mal Catherine Dior porter ce modèle haute couture aux Halles où elle se rend à 4 heures du matin pour vendre ses fleurs, ni dans les champs de roses dont elle s'occupe chaque été dans la maison des Naïsses que son père lui a léguée. C'est dans cette maison familiale entièrement rénovée avec des jardins emplis de roses et autres fleurs à parfum qu'elle s'installe avec son bien-aimé après la mort soudaine de Christian Dior. En effet, le soir du 24 octobre 1957, pendant un voyage en Italie, le couturier est retrouvé inerte dans sa salle de bain. On fait venir un médecin, mais c'est trop tard. Christian Dior a succombé à une crise cardiaque. On appelle aussitôt Catherine qui arrive à temps pour voir le corps de son frère étendu sur un lit, vêtu de noir, avant qu'il ne soit rapatrié à Paris en jet privé. Catherine Dior met de l'ordre dans les affaires de son frère avant d'abandonner le commerce de fleurs pour se consacrer à la culture des roses et du jasmin. On raconte que jusqu'à la fin de sa vie, en juin 2008, elle a porté le parfum Miss Dior. Sur sa coiffeuse, il y en avait toujours un flacon au milieu des rouges à lèvres. Dior, évidemment.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Catherine Dior, nous sommes avec l'historienne Marie-Jo Bonnet. Bonjour Marie-Jo.
Bonjour.
Bonjour Marie-Jo Bonnet, vous êtes spécialiste de l'histoire de la résistance, de l'occupation et de l'émancipation des femmes. Entre la faillite de son père et la mort de sa mère, Catherine Dior a été privée de l'éducation et des études qu'elle aurait dû suivre. Elle vit donc plus modestement que sa famille ne l'avait imaginé au préalable.
Oui, tout à fait. Je veux dire, même c'est plus que modeste, parce qu'il vivait dans une maison sans eau et sans électricité. Et donc, c'était une vie très dure. À partir de 14 ans, vous voyez, elle n'a pas pu suivre d'études. Et je dois dire que la rencontre de Hervé Descharbonneries a été vraiment, pour elle, un cadeau du ciel.
Elle est quelque part très jeune, mais une jeune fille émancipée et qui va devoir prendre sa vie entre ses mains. Personne ne l'aide, finalement.
Oui, exactement. Mais elle avait quand même reçu de sa mère l'amour des arts, l'amour des fleurs, l'amour du jardin. Et donc ça, c'est, je pourrais dire, c'est un matrimoine très important qui va lui permettre ensuite de cultiver son jardin, si je puis dire, parce que c'est grâce au jardin qu'ils vont pouvoir subsister sous l'occupation. Et après, donc, elle plantera des fleurs.
Stéphane l'a raconté dans le récit, son grand frère Christian Dior lui avait avoué son homosexualité. Pourtant, de son côté, Catherine ne lui a jamais parlé de son implication dans la résistance. Comment vous expliquez cette asymétrie ?
Mais ça, c'est tout à fait normal, parce que c'est pas du tout le même genre de danger, si je puis dire. Parce que la résistance, surtout le réseau F2, auquel elle a adhéré, c'est un réseau qui est poursuivi âprement par la Gestapo, qui a été démantelé de nombreuses fois et reconstitué. Et il n'était pas question de le mettre en danger, le réseau, et de mettre en danger son frère non plus, parce que si elle avait été arrêtée, s'ils le savaient, ils auraient arrêté son frère également.
Cette implication dans la résistance est uniquement à son amant, Hervé Descharbonneries, qu'elle le doit. C'est par amour ou aussi par conviction qu'elle est entrée dans ce réseau ?
Catherine, c'était une patriote. Hein. Je veux dire, on ne s'engage pas dans la résistance si on n'est pas patriote. Ce n'est pas seulement l'amour qui la guide. C'est l'amour de la patrie, l'amour de Charbonnerie et aussi la nécessité de gagner sa vie. Parce que quand elle a été engagée dans le réseau en juin 1943, donc dans le réseau F2, tous les agents qui étaient engagés dans le réseau avaient été payés. Parce que sinon, ça mettait aussi le réseau en danger. Ils auraient été obligés de gagner sa vie, ou alors ils auraient pu être achetés par la Gestapo. Donc, tous les agents étaient payés. Et ça, ça a été une rentrée d'argent très importante pour elle, parce que ça lui a permis un peu de sortir la tête de l'eau, si je puis dire.
Quand Catherine Dior a été arrêtée, est-ce que son frère Christian a été inquiété par la Gestapo?
Peut-être.
Non, pas du tout. Même on l'a pas soupçonné d'être complice ni de tenir des informations.
Non, parce qu'elle a été arrêtée place du Trocadéro. Hein. Oui. Elle n'habitait pas chez son frère. Et donc, là, quand elle a donné les infos, là, quand, sous la torture, hein, quand ils ont pris des informations sur ce qu'elle faisait, c'est intéressant de voir que c'est très, très flou ce qu'elle dit comme information. Hein. Mm-hmm. Par exemple, à propos de son chef, elle dit « taille moyenne, environ 40 ans, cheveux bruns, couleur du visage foncé, rasé ». Alors, je ne sais pas si vous pouvez identifier quelqu'un.
Non,
avec
c'est impossible,
elle brûle les pistes.
Juste une question sur Christian Dior lui-même. Est-ce qu'on sait ce qu'il faisait, lui, pendant la guerre?
Il faisait des dessins, oui. Non, mais je veux dire, il les vendait.
Oui.
Je veux dire, il a énormément dessiné, mais ça a été très dur. Hein. Jusqu'en 1947, c'était très difficile. Il a envoyé un peu d'argent à son père quand il en avait. Hein. Mais ça, là, il a commencé à réussir véritablement qu'en 1947, pardon, quand il a eu sa première collection qui a eu du succès et le parfum. Il faut dire aussi qu'il est le premier à avoir eu l'idée de génie de lancer à la fois un parfum et une collection. Et après, les autres vont suivre.
Oui, il a été un vrai précurseur. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Jo Bonnet, pour en savoir plus sur cette période ô combien compliquée. J'incite nos auditeurs à lire votre livre « Tortionnaires, truands et collabos, la bande de la rue de la Pompe 1944 », qui est paru aux éditions Ouest France. Et j'en profite également pour vous inviter à lire « Miss Dior », riche biographie écrite par la romancière britannique Justine Picardy, qui vient de paraître aux éditions Flammarion et qui nous a permis d'enrichir notre récit grâce à ses archives inédites.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces sœurs qui portent un nom célèbre. Après Laure Moulin et Catherine Dior, Mathieu, vous nous brossez le portrait à 99% vrai d'une sœur de plus en plus influente auprès de son frère. Et ça peut avoir des conséquences parce que son frère, c'est Kim Jong-un.
Sa suprême majesté inondant le monde de sa lumière, délicat comme le lotus, fort comme le roseau, Kim Jong-un. Soyons précis, s'il vous plaît Stéphane, donnons le titre complet des gens, surtout quand ce sont des gens qui ont l'habitude de jouer avec des missiles transcontinentaux. L'Asie, clairement, nous a donné le meilleur, les ramen, Confucius et surtout...
Dragon Ball, la quête finale, des sept boules de cristal venues des étoiles.
Hélas, elle nous a aussi donné le pire, la K-pop, le maoïsme et plus récemment... Kim Jong-un, l'inénarrable dictateur nord-coréen qui fait beaucoup rire David, selon qui il combine, je cite, la coupe de cheveux de Chris Marquez et le goitre d'Emile Louis. C'est pas très joli de se moquer du physique David, d'autant que Kim Jong-un a été élu en 2014 homme le plus sexy du monde. Bon, ok, par un magazine satirique américain, mais en Corée du Nord, le journal du parti a relayé l'info au premier degré. Ils ont même fait une petite fête.
I'm sexy and I know it.
Et bien, Kim Jong-un a une sœur. Au début, il a pensé la séquestrer comme le masque de fer, mais avec le temps, il est devenu plus coulant. Je vous présente Kim Yo-jong. Souvent, on entend de la bouche des parents ayant mis au monde plusieurs enfants cette constatation. C'est fou, on les a élevés pareil et pourtant on n'a pas obtenu le même résultat du tout. Concernant Kim Jong et sa sœur Kim Yo, cette réflexion ne se vérifie absolument pas puisqu'en effet, si Kim Yo avait dû être très différente de son frère, elle aurait aujourd'hui fui le pays et bosserait pour Médecins Sans Frontières. Or, Kim Yo-jong est l'une des plus proches conseillères de Kim Jong. Petit rappel historique Stéphane, la Corée, ce n'est pas que ce restaurant devant l'opéra dans lequel vous aimez commander des bibimbap supplément kimchi. C'est aussi, hélas, un pays divisé depuis plus de 70 ans entre une Corée du Sud dirigée essentiellement par des chanteurs de K-pop et une Corée du Nord dirigée par notre Kim Jong. Dans son ombre, qui est grande vu sa circonférence, on trouve donc sa sœur Kim Yo. Leurs relations n'ont pas toujours été au beau fixe. Vous aussi, Stéphane, qui avez des frères, vous le savez, c'est le lot de toutes les fratries. Il y a forcément un jour où on pense à buter l'autre. La différence entre nous et Kim Jong-un, c'est que lui, il a vraiment pensé à buter sa sœur. C'est, je vous le rappelle, quelqu'un de très taquin, très soupolé de soja, qui prend la mouche assez facilement. Vous vous souvenez évidemment, je vous l'avais raconté ici, de l'anecdote du général qui s'était endormi durant un discours de Kim Jong et qu'il avait fait exécuter au missile sol-sol.
Ça m'a fait de la peine et en même temps ça m'a fait tellement rire.
Oui, évidemment, c'est pas les liens. Disons que sa sœur a failli connaître le même sort. Mais finalement, non. car il est comme ça, Kim Jong, il est imprévisible. Au lieu de ça, elle a gravi en l'espace de 2 ans tous les échelons vers les sommets du pouvoir. Le rôle de Kim Yo, eh bien, créer un culte de la personnalité autour de son frère. Alors, c'est pas simple, hein, elle est un peu comme une directrice de la com qui aurait en charge l'image de Patrick Bruel après un passage dans un spa de Montélimar, mais elle donne tout. Son but, je cite, « montrer un chef d'État bienveillant, accessible, à l'image de leur grand-père Kim Il-sung, fondateur du pays. » Selon le Guardian, c'est elle qui aurait encouragé son frère à visiter les foyers des humbles, dit-on, et à s'entourer de célébrités lunaires comme le basketteur Dennis Rodman. C'est elle aussi qui supervise tous les voyages de son frérot, si bien qu'on la présente souvent comme la possible dauphine du régime. En Corée du Nord, la presse la présente officiellement comme la première vice-directrice du Parti des Travailleurs. Elle serait née le 26 septembre 87 à Pyongyang, en Corée du Nord, mais là on est moyennement sûr puisque le ministère sud-coréen de l'unification dit 1988. Elle est la fille de Kim Jong-il et possiblement de Ko Yong-hui, une ex-danseuse, mais là encore nous n'étions pas là au moment de la conception. Comme le dit si bien Papa Kim, pas vu, pas pris, dageshu, dageshi. Au décès de Papounet, quand Kim Jong prend le pouvoir, elle est nommée directrice adjointe du département de la propagande et de l'agitation du Parti du Travail de Corée, tout un programme. Mais c'est en 2018 qu'elle explose, au sens métaphorique du terme. C'est important de le préciser puisqu'on est en Corée du Nord. Elle assiste à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud, ce qui fait d'elle la première membre de la famille Kim à se rendre en Corée du Sud pour une visite officielle. Un succès diplomatique pour la Corée du Nord. Certains la considèrent carrément comme le bras droit de son frère. D'autres soulignent qu'il lui arrive parfois de porter derrière lui le cendrier de son frère, ce qui n'est pas vraiment la fonction d'un bras droit. Antoine Bondaz...
C'est peut-être les cendres d'un membre de la famille.
Antoine Bondaz, qui est spécialiste de la péninsule coréenne pour la Fondation de la Recherche Stratégique, dit « Elle joue depuis 2 ans un rôle clé pour le régime qu'il utilise comme caisse de résonance des décisions de Pyongyang sur la scène internationale. » Très vite, Kim Yo-jong est celle aussi à qui on a refilé le dossier Corée du Sud. Alors à la base, les observateurs ont expliqué qu'elle devait jouer avec son frère le tandem « good cop, bad cop ». Sauf que vu son tempérament, on se retrouve finalement avec 2 bad cops. Tout aussi irascible et fine diplomate que son frérot, elle se distingue par ses propos chocs dans l'affaire dite des ballons, quand en 2020 des activistes du Sud larguent des tracts hostiles au régime de Pyongyang. Sa réaction est assez mesurée. Les voix unanimes de notre peuple demandent de régler leur compte à la racaille qui a osé salir le prestige absolu de notre dirigeant suprême. Bon, pour le good cop, on repassera. Dernièrement, elle a mis un petit coup de pression à Joe Biden. S'il veut dormir paisiblement ces 4 prochaines années, il devrait éviter de faire des vagues et vous feriez bien de ne rien entreprendre qui vous fasse perdre le sommeil. Et ses voisins sud-coréens, dans tout ça, Stéphane, une bande d'idiot, dit-elle. Le président progressiste sud-coréen, Moon Jae-in, ça rend malade d'écouter ses discours. Il semble être dingue derrière ses apparences normales. Bonne ambiance, et encore ça c'est que la partie émergée de l'iceberg. Dieu sait ce qui se joue en coulisses, où je vous le disais, certaines rumeurs affirment que Kim Jong aurait essayé à une époque d'éliminer sa sœur. Selon le Times, il aurait songé à une époque à la remplacer par une de ses anciennes maîtresses. Finalement, comme on n'a jamais revu l'ancienne maîtresse, on en déduit qu'il a fait le choix inverse. Depuis, Kim Yo ne cesse de monter en puissance. Il y a quelques jours, elle a même été nommée membre à part entière de la commission des affaires d'État en charge de la réouverture des canaux diplomatiques avec la Corée du Sud. La question qui se pose est évidemment la suivante. Kim Yo, 34 ans, est-elle destinée à succéder à son frère si jamais ce dernier venait à disparaître ? C'est une situation de pouvoir extrêmement floue qui n'est pas sans rappeler la nôtre dans ce studio. En effet, si jamais par malheur, il devait arriver quelque chose à Stéphane, serais-je automatiquement désigné comme le guide suprême historiquement vôtre ? J'en ai discuté un peu avec Stéphane l'autre jour, il a vite douché mes espoirs quant à mon avenir à la tête de cette émission, mais aussi quant à sa maîtrise du français, puisqu'il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit
« Vous n'êtes rien après moi. »
Si je ne suis rien après vous, alors ainsi soit-il.
C'était 99% vrai. Mais c'est pas mal l'histoire de... Il n'a pas d'enfant, monsieur Kim Jong-un ?
Alors, c'est une bonne question. En fait, vous me piégez un petit peu parce que je crois me souvenir qu'il en a. Je ne sais plus. Je n'en ai plus aucune idée, Stéphane.
Donc, s'il a des enfants, il n'a aucune
vous,
raison
Stéphane,
de...
le spécialiste mondial de, des
oui,
têtes
alors,
couronnées...
Oui, alors voyez-vous, je fais les têtes couronnées. Je fais
là.
Pas les têtes couillonnées non plus.
Europe 1, historiquement vôtre.
Elle vous est venue comme ça, celle-ci, Stéphane.
Elle est comme ça.
Ah, c'est beau.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ses sœurs aux noms célèbres. Pour retrouver ceux dont les noms seront célèbres aussi un jour.
Oui, avec eux, on se replonge dans ce qui fait notre quotidien. D'où vient cet objet, cette tradition ou encore ce fruit ? Tiens, par exemple, la figue, Olivier Pouls. Elle ne vient pas du figuier, comme on pourrait le croire bêtement ?
Si, bien sûr, elle vient du figuier. Mais d'où vient le figuier ? C'est ça la question.
Autre question. Et tout de suite, David Castello-Lopez nous entraîne aux origines d'un jeu qui a fait notre régal quand nous étions enfants, le cap-plat.
J'ai souvent dit dans cette chronique que vous, Mathieu, et moi-même, on faisait partie de la dernière génération à avoir connu le monde analogique, ouais. Le téléphone fixe, la photo argentique, l'absence d'Internet, tout ça. Mais je me disais l'autre jour qu'on est aussi la dernière génération à avoir connu le monde d'avant les bobos. Alors, rétrospectivement, je me dis que les turbans que portaient mes amies filles au lycée dans les années 90, leur goût pour les musiques rétro avec de l'accordéon, leur joie précoce devant les fruits sans pesticides, et peut-être aussi le fait qu'elles étaient toutes un petit peu communistes tout en étant filles de bourgeois du 9e arrondissement, tout ça, c'était des signes avant-coureurs du boboïsme, mais le mot, lui, n'existait pas, et la réalité qu'il recouvrait n'était pas encore très définie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une petite admiration pour les pionniers qui ont senti venir ce vent, oui, ceux qui ont senti l'émergence du boboïsme et qui l'ont exploité commercialement. Le magasin Antoine et Lily, par exemple, qui s'est installé au bord du canal Saint-Martin en 1998, à un moment où c'était un quartier que tout le monde fuyait. Le 3 pièces cuisine, un bar au Batignolles, le premier bar que j'ai vu de ma vie à Paris, qui avait l'air d'être perpétuellement en travaux, alors qu'en fait c'était juste la déco. Et bien sûr, le Capla. Alors le Capla, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de construction. J'ai amené quelques planchettes ici. C'est un jeu de construction d'une simplicité et d'une élégance totale. C'est un jeu qui a senti que le grand ennemi des gens à la fois riches et socialement conscients, c'était en train de devenir le plastique et les couleurs vives. Et donc le Capla, c'est le contraire. C'est du bois brut et c'est monochrome. C'est toute la délicieuse austérité scandinave à la portée des enfants. C'est d'un goût exquis. Et ça rassure les parents. Et pourtant, le créateur des Capla, il n'est pas scandinave, mais hollandais. Il s'appelle Tom van der Bruggen. Tom, il était marchand d'art à La Haye, aux Pays-Bas. Et puis, dans les années 70, il s'est installé en France. Et il a racheté une vieille ferme en ruine, dans le Tarn. Et il a commencé à la reconstruire. Sauf que pour la reconstruire, il avait besoin de faire des maquettes. Alors, il a essayé d'abord de faire ses maquettes avec des cubes en bois, mais ça ne marchait pas, notamment parce qu'on ne pouvait pas faire des poutres. Et donc, il a fabriqué lui-même des petites planchettes de bois. Et là, ça a marché. Il a réussi à faire sa maquette. Et puis, il a fini par se dire, au bout de quelques années, mais je pourrais complètement en faire un business de ce truc-là. Et en 1986, il a lancé Capla. Capla, c'est le diminutif de Kabouterplankjes, c'est du hollandais, ça veut dire planche de lutin, c'est, autrement dire ce sont de toutes petites planches, c'est trop mignon, vous voyez. Il a commencé à les vendre tout seul en les mettant dans des barils de lessive et ça a eu du succès très très vite, en partie parce que les parents aussi jouent avec les enfants et ils jouent non pas parce qu'ils sont forcés à jouer mais parce que ça leur fait vraiment plaisir, on peut faire ses propres trucs même en étant adulte. François Mitterrand qui était président à l'époque, il en a acheté pour le personnel de l'Élysée. Et puis ce que j'aime bien avec Tom van der Bruggen, c'est qu'il a pris des risques. Pour développer Capla, il a, à un moment, il lui fallait une grande quantité d'argent. Et pour en avoir, il a vendu son château, sa ferme là, qu'il avait mis 20 ans à construire. Et il a eu raison parce qu'avec cet argent, il a pu développer Capla à l'international. En 2014, il s'est vendu 100 millions de planchettes Capla et à 50 balles le baril de 200. Vous voyez, ça fait quand même une belle somme. Et donc aujourd'hui, Tom, il est millionnaire. Il a racheté le château d'Exideuil dans le Périgord. Il a des voiliers, des Rolls, etc. Et il le mérite parce qu'il a apporté au monde une quantité de fun incroyable et tout ça sans jamais s'écarter du bon goût. C'est du pain des Landes en plus qui est fait avec des forêts qui se régénèrent, équitables,
ah ouais,
tout ça. C'est très chic, j'ai plein de mettre. Alors pour finir, j'aimerais vous inviter à aller regarder les vidéos d'un YouTuber qui s'appelle Caplamino. C'est un monsieur qui est ingénieur et qui fait des vidéos de réactions en chaîne. Vous savez, qui s'appuie sur des planchettes de Capla, des billes qui font tomber des planchettes de Capla, qui font bouger des aimants, qui déplacent des trucs, qui s'écroulent et qui font en tomber d'autres. J'ai passé une heure devant ça, j'étais complètement hypnotisé.
Oui. Et votre femme est toujours là.
Oui.
Elle est restée malgré tout. Elle a regardé la vidéo avec vous
Non, j'étais seul. J'étais seul.
Il y a des choses qu'on fait tout seul.
Merci
David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de notre quotidien et notre quotidien en ce moment, mais pas pour longtemps, car c'est bientôt la fin de la saison. Olivier, ce sont les figues.
Et oui, ça signe un peu la fin de la saison des figues, ça signe l'arrivée de l'automne, malheureusement. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bon, les figues, manger à même l'arbre quand elles sont un petit peu chaudes comme ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? On va manger les dernières. Alors, la figue, c'est vraiment un très, très, très ancien fruit qui est connu chez nous. Elle fait partie de la vie des hommes depuis l'Antiquité. Elle est d'ailleurs associée à de nombreux cultes et croyances, puisque par exemple, Romulus et Rémus, les deux frères fondateurs de Rome, auraient été retrouvés, selon la légende, sous un figuier, en compagnie d'une louve. Le figuier, le premier arbre aussi qui est mentionné dans la Bible, Et donc, on a un rapport très fort avec les figues. Le figuier est originaire du bassin méditerranéen. Et en France, c'est probablement les Phocéens qui ont planté les premiers figuiers au 7e siècle, lorsqu'ils ont colonisé nos côtes méditerranéennes et fondé donc la ville de Marseille. Au Moyen-Âge, les environs de Marseille sont d'ailleurs une terre bénie pour la culture de la figue, où elle se développe beaucoup. Mais petit à petit, la pression urbaine va faire en sorte que les figuiers vont reculer, et vont s'installer beaucoup à l'est, vers le bassin de Solliès, où aujourd'hui on trouve d'ailleurs des figues de très grande qualité, les figues d'appellation d'origine protégée de Solliès, la vraie bonne figue de Solliès, qui est fantastique.
C'est celle qu'il faut demander à son primeur.
Elle fait partie des meilleures, en tout cas des figues françaises, ça fait partie des meilleures. Il y a de très bonnes figues.
Moi, j'ai mangé des bonnes figues.
Mais
vous savez,
maintenant, le figuier, ensuite, s'est développé un peu partout. Mmh. C'est le chemin de fer qui a beaucoup contribué à la popularité de la figue, parce qu'au début, on la mangeait très localement. C'est un fruit qui voyage.
Oui, ça voyage pas très
bien. Il faut le protéger. Une fois qu'il était cueilli, il faut vraiment le manger rapidement. Mmh. Et c'est le développement du chemin de fer qui va faire connaître la figue à Paris. Et ensuite, bien évidemment, on va vouloir planter des figues un peu partout. Il y en a en région parisienne, il y a certaines variétés de figues qui marchent d'ailleurs très bien sous les latitudes comme la région parisienne. Il y a beaucoup de variétés, hein, la rouge de Bordeaux, la violette de Solliès, on en parlait, la sultane ou la marseillaise. Et puis, petit fun fact, est-ce que vous savez que lorsque vous dégustez une figue, vous mangez aussi un tout petit peu de viande ?
Hein ?
Eh oui.
Parce qu'il y a des moustiques pris dedans ou des...
Non, il y a une guêpe. Il y a systématiquement une guêpe dans une figue.
Qu'est-ce que vous racontez, Olivier ?
Parce que la figue,
pour la pollinisation.
Au départ, la figue, elle est composée d'une multitude de petites fleurs à l'intérieur. Mmh. Et ces fleurs doivent être pollinisées pour devenir des minuscules petits fruits. En fait, la figue, ce n'est pas un fruit, c'est plein de petits fruits qui sont agglomérés. Vous savez, quand vous coupez une figue en deux, vous voyez tous ces petits points, c'est des petites fleurs.
Mais l'abeille, elle vient dedans, elle s'en va.
Et alors, c'est une abeille, une guêpe, ce n'est pas une abeille, c'est une guêpe très particulière, qui descend dans la figue par le dessus.
Elle
s'y retrouve prisonnière.
Générations, elle ne se passe pas le mot.
Elles se sont pas passé le mot. Et en fait, pour féconder une figue, il faut que cette petite guêpe rentre dedans.
Mais imaginez qu'elle soit vivante, elle nous pique.
Elle est prisonnière, elle ne peut pas ressortir. Alors évidemment, elle va être dissoute, si on peut dire, dans la figue au fil du temps, puisque quand vous coupez une figue, vous voyez bien qu'il y a... Alors, elle est minuscule aussi, elle fait à peine un peu plus d'un millimètre.
Dans chaque figue, il y a une guêpe.
Oui, exactement.
C'est fascinant comme histoire.
Eh bien, vous ne le saviez pas, vous avez déjà mangé des kilos de guêpes, cher ami.
Oh là 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 là. C'est pour ça qu'elles sont si chères.
Et c'est pas forcément pour ça, mais en tout cas, c'est vrai que les figues ne sont pas données.
Donc en fait, c'est une plante carnivore, un peu, ça.
C'est pas que la plante se nourrit, voilà, la guêpe est attirée par les petites fleurs pour aller les polliniser, et ensuite, elle est coincée dedans. C'est un piège. C'est un piège mortel.
Un piège à filles.
On va...
C'est
ça. On va profiter des dernières figues pour les croiser avec les premiers cèpes qui arrivent, et c'est une association qui marche très bien, je trouve.
Les cèpes avec les figues.
Ouais, les cèpes avec les figues. Non, pas du tout. Ben oui, des cèpes, des petits bouchons que vous allez faire poêler avec une échalote, on les colore joliment. On rajoute un tout petit peu de bouillon de volaille pour nacrer tout ça, un tout petit trait de vinaigre balsamique qui va apporter le peps. Et ensuite, on rajoute des petits morceaux de figues. On laisse encore cuire, compoter ça pendant 3-4 minutes. Et je vous garantis que l'association cèpe-figue marche extrêmement bien. On termine par un petit coup de moulin de poivre. Et alors, c'est magnifique, c'est l'arrivée de l'automne. Notre figue à la guêpe.
La figue à la guêpe, la nouvelle recette d'Olivier Pouls. J'en reste sans voix. Et pour les auditeurs qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, la recette de Stéphane aussi, c'est les figues avec la feta.
Vous coupez une figue en quatre, vous ne la coupez pas complètement, vous l'ouvrez. On met un petit peu de feta dedans, un tout petit peu de trait de miel, un petit peu de thym, et on la met au four pendant une dizaine de minutes dans un four à 160 degrés.
Ça me fait très envie aussi. Merci Olivier, on peut retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et tout de suite, fini la figue. C'est en pleine poire que les questions d'histoire vont vous être envoyées. Êtes-vous prêts à vous affronter les uns les autres ? C'est la lutte finale.
Europe 1,
historiquement vôtre.
La lutte finale qui vous oppose les uns les autres, une question chacun, et ceux qui répondent juste s'affronteront pour vous départager.
Pour la finale.
Première question, c'est pour vous Olivier. Clovis a eu une plante fétiche qui lui a porté chance. Et cette plante, c'était le chou-fleur.
Le chou-fleur. Je suis pas persuadé qu'on mangeait beaucoup de chou-fleur à l'époque de Clovis. Non, je dirais non.
C'était un piège, évidemment, parce que je pensais que vous connaissiez le chou-fleur Clovis.
C'est une variété, mais ce qui n'a rien à voir.
Ah ben non.
Non, c'est mais pas c'est lui qui l'a inventé.
Pas le piéger sur une question bouffe. C'est dégueulasse que poule, c'est des questions bouffe. C'est comme si j'avais des questions voiture.
La fleur fétiche de Clovis, c'était l'iris jaune. Ça lui a porté chance en pleine bataille parce qu'il y avait un fleuve qui l'empêche d'avancer. Mais par chance, il voit des iris jaunes, preuve que ce n'est pas très profond. Il peut donc passer là. Et donc, l'iris sera l'emblème des Francs.
Bien joué, Olivier.
David, c'est à vous. Au XIVe siècle, Blanche de Navarre a eu une vie surprenante. Elle a été reine un peu plus de 6 mois. À l'origine, elle devait épouser Jean II, dit Jean II le Bon. Finalement, elle épousera le grand-père de Jean. Celui-ci la trouvera très à son goût. Vrai ou faux ?
J'en sais rien.
Vraiment, mais, j'en sais. Au-delà, j'ai envie de dire, vous vous en foutez. J'ai l'impression. Je vous connais.
J'ai envie de dire oui, voilà.
Elle devait épouser la fille et l'épouse de grand-père.
Ça, c'est marrant, oui.
C'est vrai.
Non, elle a épousé Philippe de Valois, le père de Jean de Lebon, pas le grand-père. C'était le papa.
Le papa.
Mais révisez votre généalogie.
Oui, voilà, exactement.
Alors, petite différence d'âge, fun fact. Elle avait 24 ans, lui 57. Aucun mais problème. Aujourd'hui, comme aujourd'hui, hier, ouais. Ça n'a pas d'importance. Mathieu, Jacqueline Bouvier, c'est le nom de jeune fille de la future Onassis. Bouvier, c'est également le nom de jeune fille de Marge Simpson. Vrai ou faux ?
Du personnage de Marge Simpson ?
Ouais. Je connais la réponse.
Et moi aussi.
Bah, si vous la connaissez, c'est que c'est vrai.
Ouais, on a donné une bande.
Je me suis dit, putain, j'aurais joué les gars.
J'aurais jamais.
C'est sympa.
Non, mais on aurait pu connaître son nom de famille.
Si tu réagis au quart de tour, comme ça, c'est que
si tu réagis au quart de tour, c'est que c'est ça. Et je fais merde.
Voilà. Et oui, Marge a deux sœurs jumelles, Patty et Selma Bouvier.
Ouais. Ah, c'est vrai, les deux horribles. Oui, oui, c'est vrai.
Alors, question qui départage.
Pourquoi moi j'ai Blanche de Castille avec son grand-père ?
Moi j'ai Blanche de Navarre. Il connaît mon niveau.
Elle n'est pas de Castille, elle était de Navarre.
Ouais, mais le pire, c'est qu'il ne connaissait pas la réponse.
La question qui départage la réponse la plus proche remporte la lutte finale. En 1946, Elvis Presley a 11 ans. Il aimerait bien une carabine. Finalement, sa maman va lui offrir sa première guitare. Combien en dollars a coûté cette guitare ?
Alors moi, je dis qu'elle coûtait 50 dollars.
Moi, je dis qu'elle coûtait 12 dollars.
Moi, je disais qu'elle coûtait 5, mais je ne joue pas.
Non, mais Mathieu, vous avez triché.
Non, pourquoi ?
Elle coûtait 12,95 $.
Non, fais-moi une musique beaucoup plus forte que ça.
Non,
quand c'est la bonne réponse, c'est...
Dans une boutique, le Tupelo Hardware. Une boutique qui existe toujours.
Et parce qu'à l'époque, les dollars, tu sortais de la guerre, ça valait vraiment, enfin, à mon avis, pour 12 dollars, tu pouvais avoir déjà une jolie guitare. Hein.
En tout cas, $99. Il fallait que quelqu'un puisse s'en servir, c'était le cas.
Merci. J'attends toujours qu'ils mettent la musique du Triomphe romain derrière pour soutenir un peu cette victoire, mais évidemment, ils s'en foutent, ils n'aiment pas quand je gagne. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis, il était consacré à ses sœurs au nom célèbre. Alors Stéphane, quelle sœur d'eux vous a le plus étonné, finalement ?
Écoutez, j'étais très ému à la fois par le destin de Laure Moulin et celui de Catherine Dior.
C'est vrai, on les connaissait pas.
On ne connaissait pas deux résistantes comme
deux grandes résistantes. Ouais, et humbles en plus. Demain, si j'ai bien compris, on va jouer.
Vous avez mal compris, Mathieu. Demain, on va surtout monter haut, très haut, tout en haut de la pyramide. C'est pas l'émission pyramide, vous voyez. Avec nos trois personnages, l'architecte Imhotep, qui a construit la toute première pyramide d'Égypte, l'escroc italien Charles Ponzi, qui a bâti lui un système de montage frauduleux, qui porte depuis son nom la pyramide de Ponzi.
Et on va jouer quand même un petit peu, puisque je vous raconterai celle qui a passé de nombreuses années dans une pyramide. Elle était filmée, c'est Pépita. Alors à demain Stéphane.
À demain Mathieu, à demain les amis, à demain chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.